Wayne. I'm good.
Et voilà, on a laissé un petit peu plus longtemps le générique parce que jamais on arrive jusqu'au chant, donc c'était quand même plus agréable. Jacques, nous repartons dans le noir.
Dans le noir, avec un roman donc français de Jean-François Paillard qui s'appelle Le Parisien et qui est publié aux éditions Asphalt. Alors, Le Parisien, c'est Jean-François Paillard qui est auteur parisien et qui habite Marseille et qui signe son premier polar avec un personnage, un Parisien, qui descend à Marseille. Et quand je dis descend, ce n'est pas seulement géographiquement, car son métier actuel, son occupation du moment, c'est d'être Nervi, occasionnellement garde du corps pour une quelconque mafia corse de la capitale. Et avant d'entrer dans le privé, justement, ce Parisien, Nicolas, surnommé Narval dans ce roman, c'était un militaire de carrière. Il a fait tous les fronts, les plus récents, le Congo, la Bosnie, l'Irak, jusqu'à la guerre du Golfe, qu'il a laissé complètement brisé, aussi bien physiquement que moralement et psychiquement. Au début du roman, donc, ce Nicolas, il se rend à Marseille pour un contrat. Il doit renforcer la protection du maire contre un truand des quartiers nord. Il se rend très vite compte que c'est un traquenard pour faire de lui un bouc émissaire dans un règlement de compte interne. Le Parisien, cible idéale. Il n'aura de cesse, tout le long du roman, de se tirer de ce mauvais pas et surtout de prendre sa revanche. Narval recevra l'aide d'un ex-docker, donc très bien placé pour tout ce qui est les trafics dans la ville. Et l'aide aussi d'une superbe jeune femme nommée Jamila, dont les lecteurs de romans noirs se doutent très vite qu'elle a tout de la femme fatale. Il s'ensuit un polar dans le grand banditisme marseillais, dans lequel Jean-François Paillard va user de tous les clichés que peuvent avoir les Parisiens sur Marseille. La corruption, le pastis, les livraisons tombées du camion, les petits arrangements avec la morale, les amitiés douteuses avec l'extrême droite, les quartiers nord, ghetto et plaque tournante du trafic de drogue. On aura même la balade jusqu'au goud. Mais cela fonctionne très
bien. Les goudes, il faut dire. Voilà.
C'est le bout du monde, c'est un des plus bel endroits de Marseille.
Et du monde, n'est-ce pas?
Et du monde, donc forcément, là aussi, oui, le personnage de Jean-Claude Izot avait son bateau.
Voilà, c'est le petit village de pêcheurs de Marseille.
Voilà. Mais en fait, tous ces clichés, ça fonctionne très bien, car il le fait très astucieusement. Il les expose vraiment de façon très claire, et puis il les détourne pour mieux les prendre à revers. Une citation qui est en quatrième de couverture du roman, mais qui illustre très bien tout cela. « Tiens, je parie que vous croyez qu'à Marseille, tout fonctionne à l'affect. » Qu'on fait partie d'une grande famille, que la ville est un joyeux bordel, que rien n'est organisé. En fait, c'est tout le contraire. Ici, chacun sa place, chacun ses responsabilités, chacun ses soucis. Le système est froid et impeccable. Et donc, au milieu de tout ça, Narval va tenter de faire entendre raison à ceux qui ont tenté de l'arnaquer.
C'est joli, c'est une métaphore.
Mais ce qui donne de la force à ce roman, c'est son personnage principal, un tough guy, un gros dur. Mais pour un gros dur, les séquelles de la guerre font qu'il est impuissant. Donc sémantiquement, je repars de sémantique d'ailleurs, c'est assez amusant qu'un gros dur soit impuissant. Mais bon, rassurez-vous pour lui, cela ne durera pas. Non seulement, donc, il est impuissant, mais en plus, suite aux divers problèmes psychologiques consécutifs à ses actions de guerre militaire, il déteste les armes.
Qui sont pourtant
ses outils de travail. Alors, au lieu d'avoir un ex-commando marine bas du front, on a un type qui se pose beaucoup de questions ce qui, dans le métier, peut gravement nuire à l'action. Bon, ça, c'est pas très grave, mais surtout à sa santé personnelle, parce qu'en fait, quand tu réfléchis trop, tu risques de prendre une balle. Jean-François Paillard a déjà écrit pas mal, beaucoup de romans, des essais, de la poésie, de la science-fiction, mais son premier polar est un roman vraiment très réussi, et ce qui ne gâche rien, il y a un très très joli twist final. Évidemment, on n'est pas forcément grand fan de ça, mais là, je trouve que la fin, on se dit et en fait, on se fait avoir dans les dernières pages. Donc, ça rajoute un petit plus encore à ce roman, très bon roman, donc de Jean-François Paillard, voilà. Qui a une très très belle couverture, donc qui s'appelle Le Parisien et qui est publié aux éditions Asphalt. C'est le premier polar français des éditions Asphalt qui publie généralement.
On avait en général des recueils de nouvelles, et on en avait eu un sur Marseille d'ailleurs, mais sinon c'est plutôt de la littérature sud-américaine.
Sud-américaine ou d'ailleurs, mais en tous les cas rarement française. Ils avaient publié un roman français, mais qui n'était pas du tout un polar, qui se passait à Prague il y a quelques années.
Voilà, donc maintenant tu nous présentes un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique pour faire la transition, du rock'n'roll. Donc c'est le nouvel album de Neil Young. Mais enfin bon, c'est quand même un concert qui date de 1973, la fameuse tournée Tonight the Night. Ce concert a été enregistré au Roxy de Los Angeles, donc ça se situe sur le Sunset Strip pour ceux qui y ont été. On va écouter une ballade un peu mélancolique et ironique qui s'appelle Roll Another Number, c'est-à-dire roule-toi un petit truc, for the road, donc pour la route. Il y a Nils Lofgren au piano. Il ira jouer avec Springsteen après. Et Ben Keefe, au pedal steel guitare, vous allez l'entendre, c'est le petit truc qu'on joue à la guitare posée sur les genoux avec un bottleneck. Voilà donc Neil Young, Roll Another Number avec l'accent. It's too Think of
Oh ben voilà, on finit, on a coupé un tout petit peu Neil Young pour pouvoir accueillir plutôt donc Jean-Marc Laherrère. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Comment allez-vous? Ça fait longtemps.
Ça va, ça y est, le mois de mai démarre avec les ponts, ça laisse un peu de temps pour lire.
Voilà, ça laisse plein de temps pour lire. Donc, on part en Italie avec vous.
Oui, on part en Italie. Alors, je suis d'autant plus content de partir en Italie que je trouve que dernièrement, le polar italien est vraiment assez exceptionnel.
Ouais.
On a tout un tas d'auteurs et de séries de personnages qui sont tous meilleurs les uns que les autres. On va de la Calabre au Val d'Aoste en passant...
Par Naples, avec Maurizio Di Giovanni.
Oui, alors. Ah oui, il y a Naples, bien sûr. Et là, on va parler de Valerio Varesi. Lui, c'est un auteur qui est très très connu, il paraît, en Italie, et dont on a le troisième livre traduit en France, chez Agulo. Ce troisième livre, c'est Les Ombres de Montelupo. C'est traduit par Sarah Amrani. Alors, cette série, elle tourne autour d'un personnage qui est le commissaire Soneri. Le commissaire Soneri, on l'a trouvé la première fois dans Le Fleuve des Brumes, qui était un extraordinaire polar qui se passait lors de la crue du Pô.
Ouais,
on l'a retrouvé dans La Pension de la Via Sassi. Et puis là, pour Les Ombres de Montelupo, normalement, le commissaire Soneri, il est en vacances. Il est revenu dans son village natal et il est parti faire ce que j'ai appris à l'occasion, les Italiens du Nord adorent faire, c'est aller chercher des champignons dans les bois et dans les montagnes.
Et que l'on peut déguster dans certains restaurants d'ailleurs, c'est très très bien.
Oui,
ils ont bien raison.
Pour en avoir dégusté quelques-uns, c'est excellent. Et là, on va en déguster d'ailleurs, parce que comme une bonne partie de ses confrères, Valerio Varesi nous fait partager quelques recettes qui mettent l'eau à la bouche. Donc si vous lisez Les Ombres de Montelupo, préparez-vous un encas derrière, et puis un coup de rouge aussi, parce que ça fait très envie. Et donc ce commissaire Soneri est parti prendre ses vacances à l'automne, comme il se doit, pour aller voir s'il y a des cèpes. Bon, il ne va pas y avoir de cèpes. Et puis, en plus, ça ne va pas être vraiment des vacances. Parce que quand il arrive, il est du village, mais il n'est plus vraiment du village non plus. Alors, on le connaît, on lui dit bonjour, mais alors on lui parle parfois à demi-mot. Et à demi-mot, au bar et à l'auberge où il loge, on lui fait comprendre que quelque chose ne va pas dans la famille Rodolfi. Et la famille Rodolfi, en fait, c'est... Ce serait la version moderne des seigneurs du village, d'une certaine façon. Le père a fait fortune après la guerre, dans la charcuterie. Le père, lui, il est d'ici, hein, il continue à aller dans la montagne, il parle le dialecte, il marche dans les bois. Et son entreprise, finalement, elle fait vivre plus ou moins presque tout le village. Le problème, c'est que le père se fait vieux, il était de la génération du
canonique.
Père de Soneri. Et son fils, lui, le fils, il allait étudier le management, je sais pas quoi, il parle anglais, il vient jamais, il joue en bourse. Et puis surtout, ça fait un bon moment qu'on le voit plus. Et les gens commencent à s'inquiéter. Puis il y a des rumeurs qui courent. Et puis il y a des affaires d'argent, peut-être, on sait pas. C'est un peu bizarre. L'ambiance est trouble. Elle devient carrément sombre quand on découvre le cadavre du fils et que le père se suicide.
Oui,
à Soneri sans jamais lui dire que ça serait bien qu'il prenne les choses en main, puisque lui il est d'ici, contrairement aux gendarmes qui débarquent de Don Cesu.
Et ouais, vaut mieux pas laisser les étrangers arriver quand même là. Hein.
Et puis, comme souvent dans les histoires, comme toujours, même dans les histoires de Valerio Varesi, il n'y a pas que le présent qui va être entaché par ça, c'est-à-dire tous ses souvenirs. Ses souvenirs d'enfance, c'est l'idée qu'il avait de son village et de ses habitants, vont en prendre un coup, quand même. Parce que, une fois de plus, bien c'est dans le passé qu'il va falloir aller chercher, les causes des drames du paysan, du présent. Ça, c'est l'enquête est superbe, le personnage, on le suit, on adore suivre ce commissaire, hein, comme tous ces personnages
oui,
créés
ça
par
c'est...
les Italiens, ils sont extrêmement
Ils sont très très bons pour ça, quoi, avec toujours les anecdotes et les repas, les scènes de repas.
C'est moins compliqué, des passages dans des auberges où on mange bien, on boit bien. Alors, il est peut-être un peu moins drôle que des gens comme Gangemi ou Manzini, Mais il est extrêmement attachant, et puis il a vraiment un immense talent, Varesi, pour décrire un paysage en accord avec l'état d'âme du personnage, un paysage en accord avec tout ce qui se passe. Et alors là, on a une montagne qui peut être étincelante dans la lumière froide de l'automne, ou complètement cachée dans le brouillard, où on part dans une promenade et tout d'un coup on est perdu, on ne sait plus où on est. Et finalement, tout ça, ça représente bien... la cupidité, le mensonge, les secrets, les rancœurs qui vont gâcher les vacances du commissaire, qui vont aussi lui gâcher ses souvenirs d'enfance parce qu'il va commencer à douter de ce qu'il a vécu, et puis qui ont gâché finalement la vie de ce village à partir du moment où la fortune a commencé à arriver.
Oui, c'est dans une jolie métaphore.
Ben là, on va s'apercevoir que l'arrivée massive de l'argent, elle a fait complètement voler en éclats la solidarité, qui s'affiche toujours, mais qui n'existe plus, qui avait déjà été un peu lézardé par les années de guerre, puisqu'on retourne à la guerre où certains résistants et d'autres résistaient beaucoup moins, et puis il y en avait d'autres qui étaient encore meilleurs, puisqu'ils arrivaient à être à la fois résistants et amis des fascistes, histoire d'assurer les arrières quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est tout ça qui va venir se mélanger au brouillard, à une enquête où personne ne comprend ce qui se passe, on ne sait pas s'il se passe quelque chose. C'est magnifiquement fait. Et puis il y a des personnages, il y a vraiment des personnages hors du commun, entre le père Rodolphe et puis surtout son ennemi intime qu'on appelle le maquisard, qui est un vieux qui n'est jamais descendu de sa montagne depuis qu'il a pris le maquis justement. Et finalement, avec la montagne, ce vieux maquisard, c'est le seul point fixe un peu d'une société qui a perdu tous ses repères avec l'arrivée de l'argent.
Mais c'est...
Donc
c'est...
ça, ben, avec une intrigue très bien menée, et puis la désolante, mais malheureusement assez commune et réaliste peinture des dégâts qui sont causés par une arrivée trop rapide de beaucoup d'argent dans une communauté qui était plutôt habituée à la frugalité.
Mais c'est un thème qui revient dans évidemment beaucoup de romans noirs, mais c'est un thème dans Le Fleuve des Brumes, quand il décrit tous ces petites gens qui sont dans la plaine du Pô et qui travaillent, et que l'on va revenir dans le passé de la même manière, et évidemment dans les eaux troubles du fascisme italien, comme apparemment dans celui-là, on retrouve cette idée de l'argent qui est... qui salit tout et qui empêche ensuite les gens de s'aider, de s'épauler, de voilà, c'est un des thèmes qu'il aime bien développer, Valerio Varesi.
Oui, et il le fait très bien. Il y a un des personnages qui dit d'ailleurs, il dit l'argent rend beau même ce qui est moche. Il dit ça a toujours été des voyous. Il faut bien l'être pour amasser autant d'argent. Voilà, et c'est un peu, oui, c'est un peu la thématique de Varesi, qu'on retrouvait aussi dans la pension de la Via Safi, finalement, où tous ces souvenirs de quelque chose qui avait pu être certes difficile, mais avec une certaine solidarité, une certaine beauté, ben, tout est corrompu,
tout explose.
Parce qu'il y a de l'argent facile à faire, et que c'est tellement tentant, tentant.
Après, Jean-Marc, il y a quand même un petit truc, c'est que c'est vrai que les personnages qu'on a cités auparavant, quand on parlait de Naples, de la Calabre, le personnage, le commissaire Sonnery, il est quand même du Nord. C'est moins drôle. Le brouillard, les inondations, les crues. Le climat, c'est quand même pas pareil dans le Nord de l'Italie.
Le climat n'est pas le même. Ce qu'il y a, par contre, qui ressemble un peu, c'est sa relation avec son ami, son amante, on ne sait pas trop, qui est assez drôle. Alors, elle est moins explosive que celle, par exemple, de Montalvano avec...
Livia. Livia, oui, mais Livia, c'est aussi une femme du Nord, d'ailleurs.
Mais il y a un peu de ce côté, il y a une espèce de d'humour quand même plus... Alors, moins éclatant, mais qui apporte cette petite touche, quand même. On n'est quand même pas chez des Scandinaves. On est chez des Italiennes du Nord, mais on est quand même chez des Italiens.
C'est ce qui en fait tout leur charme. Et puis le talent, comme vous dites. Et donc, excellente traduction. Donc, on va redire le nom de la traductrice.
Alors, j'ai regardé mes petites notes. J'ai vu qu'il y a eu deux traductrices.
Deux traductrices.
Pour Varesi, puisque c'est donc Sarah Amrari qui a traduit le premier et le troisième. Et c'était Florence Rigolet qui avait traduit le deuxième, La pension de la vie à sa fille. Voilà. Mais trois traductions vraiment excellentes et qui rendent bien à la fois les dialogues avec les non-dits et puis ces magnifiques paysages.
Voilà, et on va rappeler, parce qu'on l'a dit rapidement, vous avez dit chez Agulot, voilà, les éditions Agulot font un travail super en ce moment de défrichage dans des pays où on n'a pas tellement l'occasion d'aller, en Roumanie, en Albanie, dans toute cette Middle Europa. Donc là, c'est leur auteur italien. Il faut aller voir les magnifiques couvertures des éditions de Agulot.
Et je pense qu'on reparlera bientôt d'un roman roumain.
Voilà, donc ça, c'est ça. Jacques va bientôt nous concocter une petite chronique d'un roman roumain. Merci beaucoup, Jean-Marc. On vous retrouve sur votre blog.
Actu du Noir.
Actu du Noir. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Bonne soirée.
Merci. Merci. Eh bien, c'est le moment de vous dire au revoir, nous aussi. Donc, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Bye bye.